cours de théologie fondamentale donné par le père Marie-Dominique Philippe, le 6 décembre 1984, Saint-Joseph.
Ils n'entendent pas. Ah bon, très bien, c'est juste. Or, ça c'est notre fonction. Moi je vérifie pas. Or, il est ce qui a lieu dans l'ébruitement vocal. Ça fait tout à fait l'ébruitement vocal. Intensifier la voix. Donc, ce qui a lieu dans l'ébruitement vocal, un montré de ce qu'il y a dans l'âme et qui est subi. Ce qui est écrit est un montré des sons de la voix. Et de même que l'écriture, vous voyez, c'est une traduction assez libre hein, d'Aristote. Enfin, je reprends pour que vous voyez bien. Or, il est ce qui a lieu dans l'ébruitement vocal, un montré. C'est toujours là où Heidegger transpose. Parce que ce n'est pas un montré pour Aristote, c'est une signification. Quelle différence il y a-t-il entre montré et signification ? Oui, je crois que Heidegger ne fait pas la distinction entre représenter et signification. Alors, tous les deux, c'est un montré. Alors, est-ce que la signification est un montré ? Je ne crois pas. Je crois que la représentation est un montré, mais pas la signification. Alors, ça, c'est très grave, parce que ça fait comprendre que le problème de la signification se ramène au problème de la représentation, qui implique un montré. Oui. Et c'est là où on saisit bien le glissement qui existe entre le domaine du sensible et le domaine de l'intelligible. Donc, or, il est ce qui a lieu dans l'ébruitement vocal, un montré de ce qu'il y a dans l'âme et qui est subi. Et ce qui est écrit est un montré des sons de la voix. Et de même que l'écriture n'est pas la même chose chez tous les hommes, les sons de la voix ne sont pas tous les mêmes. Diversité de l'écriture, diversité des langues. De quoi cependant ceux-là, c'est-à-dire son et écriture, sont premièrement un montré. Cela, c'est chez tous les hommes, ce qui est identiquement subi en l'âme. Donc le pâté qui est dans l'âme. Qui est identiquement subi en l'âme, et les choses dont ce qui est subi est une représentation approchant de l'égalité, les choses sont aussi les mêmes. Donc vous voyez qu'il y a là, les trois aspects, le langage, la pensée, les réalités. Le langage, l'écriture, la pensée et la réalité. La traduction comprend les semeia, ce qui donne à voir, les symbola, ce qui tient ensemble, les symbola, ce qui tient ensemble, le symbole, et les homoiomata, ce qui tend à égaler, globalement à partir du montré, globalement à partir du montré, entendu au sens de laisser apparaître. Laisser apparaître qui, à son tour, repose dans le règne du désabritement. Le désabritement, c'est aletheia. Aletheia, la vérité. Hein. Et vous voyez ce que veut dire. Hein. C'est-à-dire ce qui est caché, ce qui n'est pas caché. Donc le désabritement. Par contre, la traduction ne tient pas compte de la diversité des trois modes de montrer que distingue le texte. Les trois modes de montrer, c'est le montrer de la parole, le montrer de l'écriture et le montrer des pâtés de l'âme. Le texte d'Aristote dit clairement et en toute sobriété ce qui rend visible la structure classique en laquelle la parole, en tant que parler, demeure à l'abri. Les lettres montrent les sons de la voix. Les sons de la voix montrent ce qui est éprouvé dans l'âme, les pâtés de l'âme. Qui, à son tour, montre les choses qui atteignent l'âme. Montrer, toujours pour traduire le point de vue de la signification. Essayer de comprendre la différence entre montrer et signifier. L'entrecroisement de la structure, c'est le montrer. Le Saigon, n'est-ce pas ? Le montrer. L'entrecroisement de la structure, c'est le montrer qui le porte, qui lui donne figure. Montrer, c'est sur de multiples modes, en dévoilant ou en voilant, amener quelque chose à apparaître, laisser apparaître. C'est ça le montrer, c'est laisser apparaître. Ce qui apparaît ainsi est laissé reprendre, travailler ou traiter ce qui a été appréhendé. Alors, vous voyez, l'appréhender, hein, l'appréhender qui pour nous a une certaine signification, puisque c'est dans l'ordre de l'appréhendant, c'est dans l'ordre de l'appréhender qu'apparaît la signification. Eh bien, pour lui, c'est toujours la grande question, est-ce qu'on distingue l'appréhension du jugement ? Je crois qu'on doit toujours se poser cette question-là. C'est une question absolument fondamentale en critique. Est-ce qu'il y a une différence pour eux entre appréhender et discerner, juger ? Je crois qu'il n'y a plus de distinction. Et ça, ça me semble alors quelque chose de capital. On doit toujours se poser la question. Vous voyez, pour saint Thomas, pour Aristote, puisque saint Thomas s'appuie sur Aristote et se fonde sur Aristote, pour saisir la différence entre appréhender, saisir. L'appréhension, c'est le premier moment de la signification. C'est le gros problème moderne, hein, faut pas l'oublier. À quel moment la signification apparaît ? Parce que la signification, c'est quelque chose de tout à fait premier. La réalité comme telle, hein, n'implique une signification que dans la mesure où elle est saisie. Et la signification est donc premièrement un problème du pâté de l'âme. C'est un pâté de l'âme, c'est l'âme qui pâtit, c'est l'âme qui conçoit. Elle conçoit en appréhendant. Et là, elle signifie. Et les mots, alors, les mots, le langage, impliquent une signification, mais une signification seconde. Les mots ne signifient quelque chose que dans la mesure même où ils expriment ce que nous avons assimilé, ce que nous avons appréhendé. L'appréhension, c'est l'assimilation. De la réalité. La réalité en elle-même fonde la signification, mais n'est pas la signification. Alors vous voyez, c'est intéressant ici parce que je crois que c'est un des lieux où nous voyons le mieux comment la pensée de Heidegger, et j'ai le droit de le faire, hein, parce que Heidegger connaît la scolastique, hein, faut pas l'oublier, il la connaît, et il la change complètement. C'est un petit peu comme Descartes. Descartes connaît la scolastique, prend les mêmes mots et leur donne une signification toute nouvelle. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est ce jeu extraordinaire de la parole qui subitement prend une nouvelle signification. Donc, je reprends ce petit passage qui me semble extrêmement important pour nous. L'entrecroisement de la structure, c'est le montrer. Qui le porte et lui donne figure. Montrer, c'est sur de multiples modes, en dévoilant ou en voilant, amener quelque chose à apparaître, laisser appréhender ce qui apparaît ainsi et laisser reprendre, travailler ou traiter ce qui a été appréhendé. Le trait qui lie le montrer à ce qu'il montre, trait qui jamais n'a été dévoilé purement à partir de soi-même et de sa provenance, se transforme dans la suite du temps en une relation arrêtée par convention entre un signe et son signifié. Vous voyez le problème de la signification de la parole. la signification de la parole est liée à l'aspect conventionnel, alors que l'aspect de la signification du verbe intérieur, de ce que nous concevons, eh bien, lui n'est pas lié à la convention, n'est pas lié à un aspect politique conventionnel, à un aspect communautaire. Il est naturel. La connaissance a quelque chose qui la relie directement. Le pâté de l'âme est naturel. Tandis que les mots, dans leur signification, indiquent l'aspect conventionnel. Alors tout cela est repris dans Heidegger dans notre... Si nous analysons, nous voyons que l'assimilation et la signification sont autre chose que la représentation. La représentation qui est liée toujours à l'image. Toujours. Toute représentation est liée à l'image. Représenter quelque chose est autre chose que la signification de cette chose. Vous représentez un petit chat. Et puis vous dites « chat ». Signification. Quand vous parlez de choc, quand vous restez là, évidemment, vous avez vaguement une représentation dans votre esprit, mais au fond, c'est la signification qui est importante. Alors, est-ce que montrer, c'est là où je pose une question, est-ce que montrer n'implique pas le lien entre représentation et signification, qui serait le langage symbolique? Je crois que le propre de la connaissance symbolique, c'est de lier représentation et signification. Alors, est-ce que montrer ne fait pas la synthèse entre les deux? Et donc, nous restons dans un langage symbolique. Nous restons dans une pensée symbolique. Il me semble que c'est toute la pensée heideggerienne. Alors, c'est intéressant de voir que lui-même le dit, en montrant que c'est montrer. Si vous analysez qu'est-ce que c'est que montrer implique représentation et signification. Et les deux sont impliqués dedans. Or, le langage, le lieu du langage, c'est justement de montrer. Et donc, une connaissance qui me semble être liée à la connaissance symbolique. Je continue. À la grande époque des Grecs, le signe, donc le montrer, c'est le montrer. À la grande époque des Grecs, le montrer est expérimenté à partir du montrer. Le montrer est expérimenté à partir du montrer. Il est signé par lui et en vue de lui. Depuis le temps hellénistique, le signe procède d'une fixation, il est décrété comme instrument d'une désignation, par là la représentation est aiguillée et ajustée d'un objet sur un autre objet. Vous voyez comment il montre le passage du temps hellénique à ce que lui dit. C'est très important ce petit passage, parce qu'il donne une petite topique historique. Très rapide, mais il donne une petite topique historique pour essayer d'exprimer comment on arrive à se montrer. Donc, je reprends. À la grande époque des Grecs, le montrer, das Zeichen, est expérimenté à partir du montrer. Il est signé par lui et en vue de lui. Donc, tout est en vue du montrer. Depuis le temps hellénistique, le signe procède d'une fixation. Ça, le signe procède d'une fixation. Tout le problème de la signification, le signe, est porteur de signification. Il est décrété comme un instrument d'une désignation. Par là, la représentation, vous voyez la signification et la représentation est aiguillée et ajustée d'un objet sur un autre objet. Désigner, ce n'est plus montrer au sens de laisser apparaître. L'altération du signe passé de ce qui montre à ce qui désigne repose dans la mutation du déploiement de la vérité. Depuis le temps des Grecs, l'étang est expérimenté comme ce qui vient en présence. Pour autant que la parole est, elle appartient. L'activité de parler telle qu'elle se présente quelquefois à ce qui entre en présence. On représente la parole à partir de l'activité du parler, dans la perspective portant sur les sons articulés, porteurs de signification. Parler est un genre d'activité humaine. Avec de nombreuses variations, la représentation de la parole qui vient d'être indiquée a grand trait et resté à travers les siècles dans la pensée occidentale et européenne, la représentation directrice et canonique. Cette façon de considérer la parole qui s'amorce dans l'Antiquité grecque et était visée à travers de multiples cheminements, se rassemble à sa hauteur de culmination dans les méditations progressives. C'est là l'intérêt. Et pour finir, dans la grande introduction à son livre sur la langue, donc qui arrive à cette espèce de sommet, et ce sommet, c'est Heidegger, évidemment. Alors, on va essayer de comprendre, si vous voulez, comment Heidegger va arriver à cette idée de comprendre. On expérimente la parole. La parole est le lieu d'une expérimentation. Je crois que c'est ça qu'il faut essayer de saisir. Mais je parlais hier de l'expérience sensible et poétique. Quel est le lieu de l'expérience sensible et poétique? Quel est le lieu de l'expérience poétique? C'est la parole. Et donc, on considère la parole pour elle-même. Et c'est pour ça qu'on arrive à considérer la parole pour elle-même en considérant le poème. Le lieu maximum de l'expérimentation de la parole, c'est le poème. Je crois. Il faut bien considérer ça. Le poème, c'est un langage symbolique. C'est montré. Et c'est pour ça que le poème fait que la parole est considérée pour elle-même à l'état pur. On ne regarde plus le poème par rapport à celui qui parle. On regarde le poème pour lui-même. Et toute la structure du poème doit se dévoiler, doit se montrer et doit être étudiée pour elle-même. Tandis que si je reviens à la pensée d'Aristote, à la pensée de saint Thomas, on part aussi d'une expérience de la parole. Mais l'expérience de la parole n'est plus regardée premièrement du côté poétique, l'expérience de la parole est regardée pour elle-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans l'expérience de la parole? L'expérience de la parole est considérée par rapport à l'homme qui parle. Et si je regarde l'homme qui parle, je vois que l'homme, en parlant, se sert de la parole. Et la parole devient donc un instrument dont on se sert pour communiquer ce qu'on pense. Et alors, à ce moment-là, on analyse la parole comme un moyen de communication, comme un instrument de communication. Et donc, je vois immédiatement la parole relative à celui qui parle, relative au pâté de l'âme, et je vois la parole comme un moyen qui me permet de dire à ceux que je parle ce que je pense. Vous avez donc deux regards totalement différents sur la parole. Un regard poétique qui aboutit au poème, un regard philosophique qui aboutit à regarder la parole comme symbole de ma pensée. Je crois que ceci peut se comprendre assez facilement. On peut comprendre assez facilement que vous avez, c'est un petit peu l'expérience philosophique de la parole ou l'expérience poétique de la parole. Pensez à ça. L'expérience poétique de la parole conduit au poème. L'expérience philosophique de la parole conduit à regarder la parole comme un moyen de transmission. Je me sers de la parole. pour exprimer ce que je pense. Bon, je crois que ceci, nous pouvons assez facilement le saisir. Hein. Alors, contrairement à ce que dit Heidegger, vous voyez, je dirais que c'est deux types d'expériences différentes. Heidegger veut mettre une continuité. Alors, je ne crois pas qu'il y ait une continuité, je crois qu'il y a vraiment deux points de départ différents. L'expérience philosophique de la parole et l'expérience poétique de la parole. Alors, voyons encore quelque chose qui me semble important à souligner, pour mieux comprendre cette diversité du relais entre ce que dit Aristote et ce que dit Heidegger. Et quand vous regardez le commentaire de Heidegger sur Aristote, vous voyez que Heidegger tire Aristote vers lui. Donc, toujours. Quand Heidegger commente Parménide, il le tire vers lui. Quand il commente Aristote, il le tire vers lui. Tout philosophe fait un peu ça. Il faut être suffisamment lucide pour savoir ça. Hein. Nous servons d'Aristote pour prétendre une philosophie réaliste. Bon, Heidegger se sert d'Aristote, mais l'écart est plus ou moins grand. C'est ça qu'il faut comprendre. Hein. L'écart est plus ou moins grand. Jusqu'où pouvons-nous nous servir d'Aristote pour fonder une philosophie à la manière de Heidegger? Jusqu'où pouvons-nous nous servir d'Aristote pour essayer de comprendre une philosophie réaliste? Mais au fond, c'est intéressant, c'est toujours dans cette herméneutique d'Aristote qu'on voit la diversité. Alors, il serait peut-être important de situer la position d'Occam. Pour nous, Occam est un grand tournant. Avant Occam, Aristote. Saint Thomas. Après Occam, puisque Occam représente un tournant philosophique, après Occam, j'allais dire, la philosophie moderne. En gros, c'est vrai. Vous allez voir tout de suite. Hein, parce que c'est très intéressant de voir ça chez Occam. Occam supprime les patrimoines. Il supprime le concept. Il n'y a plus de concept chez Occam. Comme il n'y a plus de concept chez Heidegger. C'est quand même un très grand tournant dans la pensée de supprimer le concept. Vous voyez, c'est quand même quelque chose de très important. On pourrait dire, ce serait une manière du reste de regarder l'histoire de la philosophie. Ceux qui acceptent une pensée conceptuelle, ceux qui refusent une pensée conceptuelle. Et c'est le pâté de l'âme. Pâté tes psuches. Ça fait bien dire. Pâté tes psuches. Ça, c'est vraiment le point de vue du point de départ de l'intentionnalité. Demandez ça à M. de Murat, n'est-ce pas? Parce qu'il est très pris par le point de vue de l'intentionnalité. Eh bien, le point de départ de l'intentionnalité, c'est le pâté tes psuches. Et c'est ce texte à la fois du Périherménéas et du De Anima. C'est que l'âme est le lieu de l'intentionnalité. L'âme noétique, hein, l'âme spirituelle, le nous, c'est le lieu de l'intentionnalité. L'intentionnalité est née dans le lit de l'âme noétique. C'est là où l'intentionnalité apparaît. Et elle apparaît dans la réaction de l'âme par rapport à la réalité. L'âme réagit, parce qu'elle est vivante. Alors l'âme réagit en face d'une réalité qu'elle connaît, qui l'impressionne, et alors cette réaction profonde de l'âme, c'est ce pâté. Donc le concept. Toute la grande théologie du Moyen-Âge accepte le concept. Et accepte le concept, vous comprenez bien, parce que le concept, c'est le verbe, c'est le petit verbe qui aboutit. Je suis croyant. Et je comprends l'importance et l'intérêt du concept et du verbe qui va reprendre un intérêt prodigieux chez les théologiens du Moyen-Âge. À cause de ça, c'est que ça donne une analogie merveilleuse par rapport au verbe. Au commencement était le verbe. Oui, c'est la grande analogie qui va être une analogie dominante de tout Saint Thomas. toute l'analogie dominante chez saint Thomas pour entrer dans le mystère de la très sainte Trinité, c'est justement, il ne faut pas l'oublier ça, l'intentionnalité du concept va être prodigieuse au point de vue utilisation analogique de ce qu'on présente. Saint Thomas ne parle pas de la parole. Au commencement était la parole, hein, c'est vite selon les traductions. Les traductions de Saint Jérôme, qui s'appuient sur Saint Jérôme, c'est in principio erat verbum. Saint Jérôme a traduit le logos verbum. Et à partir de ça, toute la grande tradition chrétienne a toujours regardé le verbum. À partir de Occam. À partir de Occam, le verbum, il est jeté, il n'existe plus. Il n'y a plus de verbum. Alors qu'est-ce qu'il y a ? Il y a la parole. Octave Luther, il ne faut pas l'oublier. Et toutes les traductions protestantes mettent « au commencement était la parole ». J'ai tout de suite regardé dans la tome s'ils avaient mis « verbum » ou « parole ». J'ai vu qu'ils ont maintenu « verbum ». Heureusement. Ils n'y ont pas pensé, hein, ils n'ont pas pensé que c'était Occam qui était le grand fautif, qui fait que Occam, c'est alors, il n'y a plus de verbum, il n'y a plus de conseil, il n'y a plus de verbe. Donc, évidemment, la seule analogie, c'est la parole. Ça n'est de rien ce que je dis là. Mais c'est capital, tout est là. Hein. Si vous avez compris ça, vous comprenez tout le reste. Parce que c'est la petite erreur au point de départ. Il n'y a plus de verbum, il n'y a plus de concept, donc c'est la parole. Et ça rejaillit immédiatement en théologie, au commencement était la parole. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait la même chose, la parole et le verbe. Qu'est-ce que c'est que la parole ? La parole, c'est la manifestation, c'est le montrer, la manifestation du verbe intérieur. Quand je parle, j'exprime ce que je pense, normalement. Maintenant, quand je suis très fatigué, je ne fais que répéter ce que j'ai pensé. Alors, il y a un retard d'une heure. Hein. Tandis que lorsque je suis suffisamment éveillé, normalement, j'exprime ce que je pense. Et quand on vous réveille brusquement, votre parole n'exprime pas ce que vous pensez. Ça exprime ce que vous avez pensé la veille. C'est ça, il y a du retard. Hein. Tant que vous n'êtes pas éveillé, et alors au moment où vous êtes éveillé, la parole disparaît pour la pensée. C'est ça la différence. Il y a le cri de celui qui est réveillé. C'est très significatif. C'est un cri affectif, un cri joyeux, ou « Enfin l'aurore !» C'est merveilleux. « Enfin la prière !» C'est merveilleux. Tandis qu'il y a le cri de celui qui, au contraire, aimait mieux les ténèbres. Et ben, il était plongé dans les ténèbres, alors la parole qui sort des ténèbres, c'est autre chose, c'est pas tout à fait la même chose qui aime de rester dans les ténèbres. Mais ce qui est important de voir, c'est que Occam a supprimé le concept. Il a supprimé donc le premier analogué du verbe. Et il retombe tout de suite dans l'autre analogué, et vous voyez que cet analogué, la parole, ce n'est plus qu'une analogie métaphorique. Et à partir de là, la théologie n'existe plus. C'est évident, la théologie n'existe plus puisqu'il n'y a plus qu'une métaphore, il n'y a plus qu'une analogie métaphorique. La parole est une analogie métaphorique comparativement avec vous. Ça, c'est très très important pour comprendre l'état de la théologie. Et c'est à partir de là, vous voyez. Ça n'a l'air de rien du tout. Hein. C'est de me dire, mais c'est ben quoi? Mais oui, c'est capital. Le jour où on supprime le concept, on supprime l'assimilation. Et alors, la parole n'est plus qu'une répétition. Et il n'y a plus de parole vivante. La parole devient uniquement conventionnelle. Et la signification est uniquement conventionnelle. Et alors, puisque la signification est uniquement conventionnelle, vous comprenez, elle dépend uniquement du contexte dans lequel vous êtes. Alors, il y a la parole du Moyen-Âge, il y a la parole de la Renaissance, il y a la parole de tous les siècles particuliers, exactement comme les styles. Les styles qui relèvent là, c'est exactement la même chose. Il n'y a plus le lien entre la parole et le concept, et par le concept, le lien de l'intelligence et de la réalité. Or, le lien d'intelligence et de la réalité est au-delà du style. Le style est conventionnel, tandis qu'au contraire, le lien de l'intelligence et de la réalité n'est pas conventionnel. Il est naturel. La réalité n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Et l'intelligence humaine n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. L'aspect conventionnel a changé beaucoup, beaucoup, puisqu'on s'éclaire à l'électricité. Et donc ça change tout l'univers, puisqu'on peut servir de petits instruments pour agrandir la parole. Ça change tout l'univers. Bon. Ça ne change rien au verbe. Mais ça modifie entièrement le point de vue de la parole. Oui, c'est important. Oui, toute l'exégèse moderne, elle est là. Nous y reviendrons. Mais je vous l'ai dit, ici à la source. Parce que c'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre comment, supprimant la question du verbum, en supprimant le concept, on immédiatement s'appuie sur la parole. La parole devient le premier moment de la signification. Or, cette signification est purement conventionnelle, elle dépend donc des époques et de milieux dans lesquels la parole est prise. Si au contraire, on maintient le concept, on maintient le lien pate tes sukes, donc le maintien du nous avec la réalité. Et ce lien-là est au-delà de la convention, il est au-delà de l'aspect conventionnel. Ce lien-là est naturel. Et donc il maintient, au-delà de la diversité du langage, une signification fondamentale qui peut être la même. Vous voyez que si vous maintenez ça, vous maintenez une métaphysique.